Donc voilà, bon, je vais vous présenter en fait ce que m'a proposé de présenter Amélie. C'est un sujet sur les stations à peupliers. Donc bon, le petit message que je voulais passer, c'est que bon, finalement, il n'y a pas une populiculture, mais des populicultures, puisque bon, moi j'ai l'occasion d'intervenir un petit peu partout en France. Et donc on voit des choses qui sont quand même très très différentes du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, en préambule, ça je voulais c'est que les choses soient claires tout de suite. Hein. Quel est l'objet de la populiculture, hein. La populiculture a pour objectif de produire du bois d'œuvre. On n'est pas du tout dans l'aspect bois énergie. Pour faire des produits comme les emballages légers, le contreplaqué et autres panneaux de bois. Il n'y a pas que le contreplaqué dans la vie. Des palettes, mais aussi peut-être demain des éléments d'ossature bois. Et voir des poutres pour la construction. Donc là, on parle un petit peu plus de l'avenir. Donc le bois de peuplier a certaines qualités. Alain Barthelot en parlera cet après-midi. Donc la populiculture est une production qui, bien évidemment, comme toute production, doit avoir une rentabilité. Et donc la vente des bois doit couvrir les investissements et permettre de faire un bénéfice financier, sinon il n'y a plus de production possible. Donc ce qu'il faut, c'est que la populiculture soit raisonnée pour être production de richesse, parce que l'idée aussi derrière, c'est d'avoir un foncier et d'avoir une production de richesse. Alors la richesse, ça peut être de l'argent, mais en général, des aspects financiers qui peuvent aussi se transformer en emploi, etc. Vous voyez le schéma économique. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces histoires de stations et de populiculture. Donc voici l'image que beaucoup ont de la populiculture, hein, avec classiquement des arbres alignés, puisque c'était un petit peu de la notion de paysage. Donc j'ai développé là-dessus. Et puis bon, à côté, un sol nu. Donc ça, c'est l'image que l'on a classiquement de la populiculture. Mais la populiculture, ça peut être aussi cette image-là d'une peuplerie, où on a toujours, mais hélas... où l'on a toujours des arbres alignés, mais on a dessous un sol couvert d'une végétation basse. Hein. Donc ça peut être un cas. J'étais dans le Maine-et-Loire, bon, c'est des peupleries qu'on a vues, hein, donc elles ne sont pas forcément très très loin. Et on peut aussi avoir d'autres peupleries. Bon, là, on n'est pas en Maine-et-Loire, hein, mais on est un petit peu plus dans l'est ou dans le nord de la France, hein, avec toujours des arbres alignés, hein, puisqu'on est quand même dans un système de production, mais on peut aussi avoir une végétation relativement haute qui se développe en sous-étage, ligneux. Donc là, la différence entre ces populicultures se situe essentiellement au niveau des entretiens du sol. Donc quand on fait entretien du sol, bien souvent... entretien du sol, on enlève la végétation, on se retrouve avec un sol nu. Bon, ça donne en général, d'un point de vue paysager, une peuplerie qui est transparente, c'est-à-dire qu'on voit assez facilement à travers, on peut même voir loin. Donc en termes paysager, ça peut avoir des intérêts. Bon, en termes biodiversité, bon, mais là, on supprime la végétation et puis tout ce qui va avec. Donc là, c'est peut-être un peu moins intéressant. Et puis alors, pour le populiculteur, pour le producteur, ça a un coût, puisque l'entretien du sol, c'est un travail. Et ce travail a un coût, mais normalement, ce coût doit avoir un effet positif sur la rentabilité de la peuplerie. Alors après, vous avez l'autre système où vous ne faites pas d'entretien du sol. Donc là, quand vous ne faites pas d'entretien du sol, vous avez une végétation qui est conforme à la qualité de la station, en fonction du type de station que vous avez, enfin, en fonction du sol et du climat que vous avez. Par contre, le peuplement est nettement moins transparent. Hein. On se retrouve plus dans un schéma de fermeture de paysager, et puis d'un point de vue économique. Alors, d'un point de vue biodiversité, mais là, vous avez un développement d'une végétation, vous pouvez avoir une flore, une faune, bon, peu importe. Et ensuite, vous avez... l'aspect économique, bon, c'est intéressant puisque de toute façon, vous n'avez pas de dépenses et donc ça a véritablement un intérêt économique. Mais alors, pourquoi on fait ces entretiens du sol? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser à ce niveau-là, puisque d'un côté, il y a pas mal de désavantages et puis d'autre côté, des inconvénients. Alors, essentiellement, le travail du sol que l'on fait en peuplerie, c'est pour limiter la concurrence du sous-étage face aux besoins en eau du peuplier. et ainsi assurer une croissance compatible avec la production. On est toujours dans un système de production. Donc là, à un moment, on a un besoin en eau qui peut être concurrencé par la végétation basse, et à ce moment-là, on fait les entretiens du sol pour justement régler ce problème. Et véritablement, on a ce risque de besoin en eau, essentiellement en risque de stress hydrique estival. Donc là, il va falloir. Donc là, l'idée, c'est de qualifier quels sont les besoins en eau d'un côté et quelles sont les situations à risque de stress hydrique estival. Donc sur les besoins en eau du peuplier, il y a eu un travail qui a été fait dans les années, début des années 2000 par Lamps et Müller, bon, qui ont mesuré des flux de sève dans une peuplerie de production sur des arbres adultes. Et ils étaient arrivés à la conclusion, ça avait été fait en vallée de Garonne, où en gros le besoin d'un peuplier était de 3 litres par jour et par centimètre de diamètre. Donc c'était en rapport avec la taille des arbres. Bon, alors, la consommation journalière n'est pas toujours la même. Ça dépend complètement de l'ensoleillement. Si vous avez une journée nuageuse, le peuplier consomme jusqu'à 10 fois moins qu'une journée ensoleillée. Une belle journée comme aujourd'hui, là on peut dire que là il y a un besoin en eau important. Et puis si demain c'est nuageux, la consommation sera bien différente. Mais en moyenne, il avait trouvé ce chiffre-là, de 3 litres par jour et par centimètre de diamètre, ce qui correspondait aux publications scientifiques à l'époque qui étaient faites au niveau international, et c'était à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc si à partir de ce chiffre, on ramène ça à notre problématique de production de bois de peuplier, bon, moi j'avais réalisé, j'avais réalisé deux courbes, une pour le nord de la France, une pour le sud de la France et une pour le nord de la France, donc qui permettait de recadrer. Donc là, on avait des courbes de croissance du peuplier, hein, ici, on va de 0 à 20 ans, donc avec une croissance, avec des valeurs en dimension, des arbres qui font 102 tours, et puis après 142 tours, etc. Donc là, en général, la récolte, elle va se situer à ce niveau-là, hein. Notre objectif de récolte est à ce niveau-là, et puis dessous, les besoins en eau, etc., qui étaient exprimés. Donc là, ça montrait que, bon, entre le nord et le sud, bon, les besoins en eau n'étaient pas les mêmes. Alors, parce que là, on jouait sur la dimension des arbres, sur la densité et sur la durée de la période de végétation. Puisque la période de végétation dans le sud et la durée de végétation dans le nord ne sont pas les mêmes. Il y a un distinguo qui est relativement assez important en nombre de jours. Donc on arrivait à partir de cette information-là à avoir des volumes en eau pour les peuplerets qui allaient de 3100 mètres cubes par hectare et par an à plus de 5000 mètres cubes par hectare et par an. Ce qui semble important, mais là on est quand même dans un cadre forestier. Alors, là, à partir de ce besoin, il faut passer des besoins, où on était avec des litres par arbre, à une offre. Qu'est-ce que le sol et le climat peuvent offrir comme eau? Et là, on finit sur des millimètres par mètre carré, parce qu'il va falloir regrouper ces deux informations. Et donc là, bon, je vous passe les calculs, hein, les petites conversions, et on arrive, bon, alors là, c'est toujours en fonction de la période de végétation, de la densité des arbres et des dimensions, à un besoin gros en millimètres par mètre carré par an, de 310 à 500 millimètres par mètre carré et par an, en allant du nord au sud de la France. Parce que ça, à partir de cette valeur-là, on va pouvoir recaler ce que peut fournir le sol et ce que peut fournir par le biais du climat. Donc là, on a deux cas de figure pour assurer donc ces besoins en eau. Alors, première chose, est-ce qu'on a une nappe en eau disponible par les racines? C'est quand même, bon, le peuplier, c'est une essence de milieu alluvial qui en général pousse en bordure de rivière, près des fleuves. Donc, il y a souvent une nappe d'eau. Donc si la nappe d'eau est accessible, en général, on n'a pas de problème d'alimentation en eau. La nappe, plus la réserve utile, plus les précipitations, tout ça apporte, disons, l'eau dont a besoin le peuplier. Donc on n'a pas de problème de stress hydrique. Par contre, sur d'autres peuplerets où on n'a pas de nappe accessible, où elle est tout simplement inexistante, on a un certain nombre de cas en France, là, la peuplerie fonctionnera uniquement sur la réserve en eau utile du sol et sur les précipitations. Donc là, en fonction des caractéristiques locales, on peut avoir un risque de stress hydrique estival. Alors, quelles sont les situations à risque de stress hydrique estival pour le peuplier? Alors là, ce qu'il faut voir, c'est surtout les apports par les précipitations. Alors, ce qui est important pour la croissance du peuplier, c'est de se recaler sur la période de végétation. Donc là, je suis parti sur des estimations moyennes trentenaires. Donc là, vous avez deux cartes. La petite carte en bas, c'est la carte de localisation des peuplerets, hein, qu'on voit surtout. Bon, vous avez une zone dans le sud-ouest, vous avez l'ouest, et puis le nord-est, et puis un petit peu en Pont-d'Alpes. Et puis alors, de l'autre côté, j'ai repris une carte donc de Aurélie, donc de Météo France, pour la période 81-2010, pour les pluviométries de mai à août, pour avoir une idée un petit peu de la pluviométrie au niveau national. Donc vous avez de moins de 200 mm, 200 à 250, 250, etc. Donc plus sévère, plus il y a de précipitations estivales. Donc on voit par exemple pour les peuplerets qui sont dans l'Aisne, dans l'Isère, on a des niveaux de précipitations qui font que même si on est en station ce qu'on appelle hors vallée, l'alimentation en eau est relativement bien pourvue par les précipitations. Donc là, si on regarde les grandes zones populicoles, on va dire le nord-est, l'ouest et le sud, dans le nord-est, on a entre 250 et 300 mm, dans l'ouest, 200-250, et dans le sud, pareil. Après, ça dépend des départements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une précipitation, vous avez toujours une perte, parce qu'il y a ce qui tombe, et puis tout n'arrive pas au sol. Donc, si on compte une interception de 20%, ça réduit de 20% le niveau des précipitations. Donc, si on reprend ces valeurs-là et qu'on enlève 20% à chaque fois, ça diminue déjà nettement ce qui arrive au sol. Alors bon, tout ça, c'est quand même très théorique, parce que la pluviométrie, ça dépend toujours comment ça tombe. Si vous avez un millimètre qui tombe tous les jours, à la fin du mois, vous aurez peut-être 30 mm, mais ces millimètres-là seront très inefficaces. Par contre, si vous avez 30 mm qui tombent en un seul jour, là, par contre, ça sera très efficace et ça arrivera au sol. Donc, on reste quand même dans des choses relativement globales, mais qui permettent de cerner un petit peu les sujets. Donc, si je recale cet apport par les précipitations estivales aux besoins en eau des peuplerets dans ce secteur-là, on voit que pour un certain nombre de régions, il manque entre 110 et 70 mm d'eau, de lame d'eau, 240, 200, voilà. Plus on descend vers le sud, plus la lame d'eau nécessaire à la croissance du peuplier est importante. Et cette lame d'eau, à ce moment-là, elle devra être compensée par la réserve en eau utile du sol. Donc là, la réserve en eau utile du sol, c'est le deuxième sujet très important. Important. Donc la réserve utile en eau du sol, elle dépend de la texture des horizons qui composent ce sol-là et de la profondeur que l'on aura prospectable par les racines. Et là, c'est là où beaucoup, beaucoup de choses changent, puisque on a des textures, on a des profondeurs de sol qui sont très différentes, et c'est là où tout devient très, très différent. Alors, pour essayer de synthétiser tout ça, puisque mon rôle est de préparer des discours pour les producteurs, pour les populiculteurs, essayer de regrouper tout ça dans quelque chose d'un petit peu intelligible. Donc là, j'ai fait un petit graphique, voilà, qui reprend les grands types de textures. Hein. On va des sables au limon et on arrive aux argiles. On reprend les profondeurs de sol et en fonction de la texture, vous avez des valeurs de rétention en eau dans le sol qui sont complètement différentes. Et donc, j'ai essayé de voir, de mettre des échelles. Tout ça, on est dans du globalisant, hein, c'est-à-dire que vous avez, dans un sol, vous n'avez pas qu'une seule texture, hein, vous avez différents horizons avec différents niveaux de texture. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des grandes lignes et de voir à quoi ça correspond. Et par exemple, si on veut avoir 200 à 250 mm de réserve utile dans le sol, Et bien, bon, si vous avez un sol sableux, bien, c'est quelque chose qu'il faut descendre bien plus bas. Hein. Là, on est à 2 mètres. Donc, il faut avoir des sols vraiment très, très profonds. Et par contre, il faut être sur des sols entre 1 mètre et 1,50 mètre de profondeur. Bon, c'est quand même des sols relativement, relativement profonds. Et donc, ça donne un petit peu une image de la profondeur qu'on doit avoir en fonction des textures. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est 70 à 340 mm d'eau dans le sol qui permettent de compenser un petit peu les besoins en eau d'une peuplerie adulte. Alors, visiblement, quand on regarde ce tableau, on peut dire que oui, mais pas partout. Alors, visiblement, ce que j'appelle les sols équilibrés, ça veut dire là où on a un petit peu, on a un ensemble limon, argile et sable. Bon, dans cette zone-là, ça reste relativement possible. Dès qu'on est sur... alors, ces sols équilibrés, bon, ça nécessite quand même des sols profonds qu'on peut avoir dans certaines zones. Hein. Je vais prendre par exemple en vallée de Garonne, on peut avoir des sols qui sont parfois très profonds. Mais bon, sur les sols sableux, bon, mais là on a franchement une difficulté d'avoir justement cette profondeur-là. Et ensuite, sur les sols argileux, alors effectivement, sur les sols argileux, tout de suite, on a des potentiels qui sont relativement plus importants. Mais le problème des sols argileux, c'est la prospection racinaire, où on a des sols un peu plus compacts. Et là, le peuplier qui a besoin, disons, de sols aérés avec une bonne microporosité, a un petit peu plus de mal à prospecter. Donc ça fait d'ailleurs partie un petit peu, nous, dans l'amélioration des cultivars, justement, arriver à avoir des cultivars qui, bon, arrivent à bien prospecter ce type de terrain-là qu'on a assez fréquemment là. Donc vous voyez, en fonction de un sol de peupleret, il peut y avoir des choses très différentes derrière, suivant la profondeur, suivant la texture. Et bon, c'est le message que j'ai essayé de passer. En fonction qu'on est sur sable, sur argile ou sur quelque chose d'intermédiaire entre les deux, les problèmes seront complètement différents. Alors, en pratique, tout ça, ça nous aboutit en gros à un tableau que j'ai essayé de faire pour aujourd'hui. Donc avec deux cas de figure, hein, soit la nappe est accessible, soit la nappe est inexistante ou inaccessible. Là, on joue sur les profondeurs, là on joue sur les textures. Et j'ai essayé de regrouper des grands types de stations, avec des stations très humides, humides, plutôt fraîches, à tendance argileuse, tendance limoneuse et tendance sableuse. Et là, à voir au niveau des entretiens du sol, comment ça peut se transformer. Alors, quand la nappe est accessible, bon, au niveau des entretiens du sol, la plupart du temps, pas besoin d'aller faire... Si on a une alimentation en eau qui est assurée par la station, pas besoin de faire d'entretien, on plante. Je connais beaucoup de peuplerets où les propriétaires, ils plantent, et puis ils reviennent, font les élagages, la taille de formation, parce que ça, c'est obligatoire. Et puis c'est tout. En termes d'investissement, c'est une culture rentable. Hein. En termes d'environnement, ça permet de limiter les conflits. Bon, quand on est sur le frais, quand on est dans le domaine du frais, c'est-à-dire avec un sol un peu plus profond, mais bon, relativement bien alimenté en eau et prospectable, bon, là, on peut avoir des besoins d'entretien. Alors là, les couleurs vert-jaune, c'est en fonction un petit peu de l'apport par le climat et par les précipitations. Par contre, quand on est sur des terrains ou sur des zones où on a des périodes de végétation qui sont peu arrosées, là, par contre, il faudra probablement étendre les entretiens. Par contre, dès qu'on est dans des zones où on n'a pas accès à l'eau par la nappe, où là, on doit jouer essentiellement sur la texture et sur la profondeur de sol, hein. Donc là, je recoupe des textures et des profondeurs de sol, là, on peut avoir des entretiens qui peuvent aller de 0 à 5 ans ou de 0 à 10 ans. Et puis, bon, sur des stations où on est sous des sables, etc. Bon, mais là, c'est entretien obligatoire, sinon pas de peuplier. Donc là, ce tableau, c'est juste pour imager que, ben voilà, les entretiens du sol, c'est le sol qui décide, c'est le sol qui nous dit ce qu'on va devoir faire ou pas. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire une typologie des stations à peuplier au niveau national pour justement arriver à cadrer un petit peu la démarche auprès des propriétaires. Hein. Donc, c'est des fiches qui ont cette allure-là. Hein. C'est 4 pages avec une description de la station, performance des cultivars, les itinéraires techniques, etc. à faire. Bon, c'est des fiches qui ont déjà plus de 10 ans, hein, donc qui sont déjà à refaire. Où là, en général, on reprend un peu les caractéristiques de la station. Vous voyez, est-ce que l'alimentation en eau est suffisante? Donc, pas de concurrence avec la végétation à passer sauf à la plantation. Donc, travaux du sol nécessaires, excepté à la plantation. Bon, parce que la plantation chez le peuplier, comme on plante du plançon, bon, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est décliné tout au long de toutes les fiches. Voilà. Et ça permet véritablement. Le message est franchement de dire vous faites des entretiens du sol si vous en avez besoin, si pour la croissance des peupliers, il y en a besoin. Mais s'il n'y en a pas besoin, c'est. Pas faire de travaux, c'est toujours une économie. Et en termes de rentabilité, c'est nettement plus intéressant. Donc voilà, pour conclure, donc j'espère que je n'ai pas trop déplacé. Hein. Donc en France, donc là j'ai élargi le domaine, hein, les conditions de la polyculture en fonction des sols et des climats sont très différentes. Sont très différentes. On a franchement des niveaux de précipitation, on a des périodes de végétation qui ne sont pas les mêmes, des durées de végétation qui ne sont pas les mêmes. On a des niveaux de précipitation qui ne sont pas les mêmes. Et après, on croise ça encore avec les sols qui sont plus ou moins profonds, avec des textures plus ou moins sableuses, plus ou moins argileuses, plus ou moins équilibrées. Ce qui fait qu'on a des situations très, très variables. C'est pour ça qu'il faut raisonner la polyculture. Il faut savoir. C'est pour ça que nous, on essaie de faire passer aux propriétaires qu'ils essaient d'avoir un diagnostic de leur station, un diagnostic de leur sol, parce que à partir, disons, de leur sol, ça va entraîner tout ce qui va aller derrière. Donc il y aura des exposés un petit peu plus tard, et c'est très important, ça va déterminer les investissements, ça va déterminer les risques, ça peut déterminer les conditions d'exploitation, voilà, ça peut... faut vraiment raisonner tout cela. Et si on fait les choses dans le bon ordre, hein, si on raisonne cette polyculture, eh bien, je pense, enfin moi je suis convaincu, qu'on peut à la fois répondre aux enjeux économiques, c'est-à-dire fournir une matière première à une industrie pour que le bois soit utilisé à sa juste valeur, que le producteur ait une rentabilité et un gain financier sur sa production, et en même temps qu'on puisse avoir une maîtrise répondre aux enjeux environnementaux au maximum. Et si on a l'économie et les enjeux environnementaux, là, on est véritablement dans le cadre d'une gestion durable. Parce que qui dit gestion durable, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et quand je dis enjeu, dans les enjeux économiques, hein, c'est enjeu, il faut que la production se tienne toute seule. C'est-à-dire qu'une production aidée, pour moi, elle n'est pas durable. S'il y a des aides derrière, les aides ne sont jamais durables. Donc, il faut que, franchement, la production se tienne tout seul, hors aide. Et on voit très bien, hein, bon, des fois, certains ont dit, ah ben, il n'y a plus d'aide, ah ben, on ne fait plus rien. Donc, ça c'est pas durable. Quelque chose qui fonctionne avec des aides, c'est pas durable. Donc, voilà. Si on est dans la gestion durable, il faut vraiment tout cadrer. Et donc, c'est pour ça que mon discours, depuis un certain nombre d'années, c'est de dire qu'il n'y a pas une polyculture, mais qu'il y a des populicultures, et puis il y a des populiculteurs aussi. Hein. On ne parle pas du social, etc., qui pour moi est franchement très important, parce qu'on voit dans les réunions, on n'a pas toujours les mêmes gens en face. Les gens de Poitou-Charentes n'ont pas les mêmes perceptions, n'ont pas les mêmes réflexes que les gens du Grand Est, que les gens de l'Ouest, que les gens du Sud-Ouest. À chaque fois, c'est des catégories de gens différents, c'est toujours la même production. Voilà, donc on est en pleine diversité. Hein, on dit que, alors, on a les cultivars, où là, on a quand même quelque chose d'assez assez carré, on a le même individu, etc. Mais sorti des cultivars, après, on plonge dans la diversité. Alors, je ne sais pas si elle est bio, mais en tout cas, c'est une certaine diversité. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, je suis... Oui.